Kinshasa. Je suis tout à fait d'accord.
Moi, c'est André de Mbujimayi au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi. L'Union africaine, UA, s'est penchée le mercredi 15 mars dernier sur la difficulté de cohabitation entre Sud-Africains et autres Africains en Afrique du Sud. Le mois dernier, souvenez-vous, le Nigeria avait demandé une intervention de l'UA pour mettre fin aux attaques dont sont victimes les ressortissants africains. Cette affaire relance notamment les débats sur la politique d'intégration régionale ou encore continentale que partage le pays membre de la SADC, dont la RDC. Qu'en pensez-vous? Réagissez sur notre page Facebook et commentez aussi ces sujets à l'adresse pa@radiocapi.net. Vous avez également la possibilité de nous appeler au 081 890 63 81 ou bien au 081 890 49 69 pour votre intervention en direct. Notez que Nico Kalambay assure la réalisation de cette émission. Alain Goy est à la mise en onde de ce programme coordonné et présenté par J.R. Lungembo Luabung Anji. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo. Cette émission en parole aux auditeurs est une rediffusion.
Plusieurs violences ont été enregistrées en Afrique du Sud autour de la difficulté des cohabitations avec d'autres Africains vivant en Afrique du Sud en 2008, en 2015 et cette dernière violence a été constatée en 2017. Nous en parlons avec vous Franck, vous êtes à Vienne, bonjour et bienvenue.
Bonjour messieurs les journalistes et bonjour à tous les amis de Parole aux auditeurs.
Plusieurs raisons sont avancées par les internautes qui ont posté leur message sur notre page Facebook. Entre autres, les déficits de la mise en route de la politique d'intégration continentale, le chômage qui bat son plein en Afrique du Sud et la politique économique qui laisse à désirer et les taux d'une immigration très élevés. Est-ce que vous pensez à cela?
Oui, je crois que il y a plus que ça. Les amis qui ont évoqué ces aspects n'ont pas tort, mais il y a aussi plus que ça. Parce que, en vrai dire, c'est un problème d'abord de frustration interne d'un peuple qui ne se rassure plus sur son destin. Pour qui se souviendrait avant tout de l'intégralité de l'histoire du peuple sud-africain, vers les années de l'apartheid, il saura se situer. La grande partie de la population noire sud-africaine n'a pas eu beaucoup de chances pour être scolarisée, afin d'être socialisée au marché d'emploi et surtout pour avoir accès aux emplois compétitifs conditionnés par un profil académique avéré. Puis, depuis que les choses semblaient changer vers la fin des années de l'apartheid, certains autres frères africains qui découvraient ces pays et les infrastructures qu'ils regorgent trouvaient là leur Eldorado et lieu de repli, de refuge et aussi leur nouveau pays d'intégration. Ainsi, certains faisaient venir leurs amis, leurs membres de famille, si bien que elle a commencé à intéresser tout le monde qui avait là des gammes d'opportunités. Seulement, enfin, pour certains postes emplois compétitifs, comme dans des hôpitaux et ailleurs dans certains offices, on a seulement besoin de recourir aux personnes dûment qualifiées, disposant de tous les atouts exigés pour rendre service sur base de compétences requises. Et à base de cet aspect, il peut arriver que notre citoyen qui n'est pas forcément de nationalité sud-africaine puisse être embauché quelque part. Et de telles situations, si ça se répète dans des hôpitaux, dans certains bureaux, et on voit que les étrangers, ça, quelque part, ça crée une certaine frustration. Puis, l'attitude qu'affiche une frange de la population sud-africaine, on la trouve aussi ailleurs, même ici en Europe. Il y a aussi parfois des gens qui sont un peu insatisfaits avec leur propre vie, des gens qui ne se retrouvent plus et qui pensent que s'il est en train de souffrir, c'est parce qu'il y a autant d'étrangers, c'est parce qu'il y a autant d'immigrés dans le pays et on commence au lieu de s'intéresser. Allô?
Oui, allez-y Franck.
Oui, je disais, au lieu de s'intéresser à sa propre situation, et ou à l'organisation interne de son pays. On pense que si moi je ne me retrouve plus, c'est parce que il y a autant d'étrangers qui sont venus ici. Mais parfois on oublie que les étrangers qui sont venus là-bas ne vivent pas gratuitement, ils payent les taxes, et ils ont fait preuve d'un cursus académique requis pour avoir accès à ces postes compétitifs, et que, par exemple, pour un hôpital, si on a besoin d'un médecin, on aura besoin de, on peut embaucher quelqu'un qui a la qualification des médecins, donc on ne va pas aller prendre par complaisance.
Alors Franck, le problème est là. Que doit-on faire pour arriver à résoudre définitivement ces problèmes?
Oui, mais le problème est là, mais je crois que c'est d'abord au niveau interne que certains problèmes doivent être résolus, parce que les problèmes de l'intégration tels que vous l'avez énoncé, les problèmes de l'intégration en Afrique, moi je trouve que l'intégration régionale en Afrique est encore à un niveau assez déséquilibré. Donc, il y a d'autres pays dont le niveau de vie est déjà stable, mais dans la plupart de nos pays africains, le niveau de vie des citoyens moyens ne répond pas encore au minimum vital. Alors, il y en a qui pensent que si je dois me déplacer pour tel pays, là, ça ira mieux. Mais je crois que le problème, ça doit plus aussi interpeller nos dirigeants politiques, parce que on doit revenir à la question du départ pour se demander pourquoi il y a maintenant des flux migratoires. Tantôt c'est de l'Afrique vers l'Europe, tantôt c'est de l'Afrique vers l'Afrique du Sud. Qu'est-ce qui fait que la plupart des citoyens cherchent à éviter leur pays pour aller chercher la vie ailleurs? Ça signifie que quelque part, il y a des gammes d'insatisfaction qui ne trouvent plus de solution. Alors on pense aller ailleurs. C'est comme un petit poisson. Un petit poisson ne peut vivre que là où il y a un peu d'eau. Donc c'est comme aussi la vie de l'homme. Quand il se rend compte que chez lui, dans son propre pays, les conditions de vie ne sont plus réunies, les conditions de vie ne lui permettent plus de s'épanouir convenablement, il aurait tendance à se déplacer pour aller tenter ailleurs.
Merci beaucoup, merci. Aussi, oui, merci beaucoup, Franck.
Je crois que ici, c'est...
Merci beaucoup, Franck, d'avoir appelé d'Allemagne.
Il doit repenser l'intégralité de sa politique migratoire et de l'intégration régionale.
Merci beaucoup, Franck, d'avoir appelé de l'Allemagne et surtout d'avoir accepté d'intervenir. Et vous l'avez si bien dit, aujourd'hui, c'est vrai, il y a des problèmes de frustration à l'interne. Donc les Sud-Africains qui estiment qu'ils n'ont plus d'espoir, ils n'ont plus à espérer à l'avenir. Voilà, donc c'est ce qui justifie d'ailleurs leur comportement. Donc depuis un certain temps, vous l'avez dit, un certain moment, et tel que vous suivez les journaux télévisés de certains pays et des vidéos postées sur les réseaux sociaux, vous estimez que c'est quand même incompréhensible ce qui se passe en Afrique du Sud. Est-ce que c'est le même sentiment qu'à Kevin Mbandaka? Kevin, bonjour et bienvenue.
Bonjour Cher, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Alors Kevin, pour vous, vous dites que si l'Afrique donc ce serait difficile que l'Afrique puisse atteindre quand même le niveau de cohabitation pacifique entre les peuples.
Certainement. C'est ce que je dis. C'est un constat un peu amer et un constat général qu'on fait, puisqu'on sait que dans le cadre d'une intégration, l'idée aussi au niveau social, c'est celle de rapprocher aussi le peuple. Et lorsqu'on rapproche deux peuples, on a beaucoup plus la chance d'éliminer les tensions entre les peuples, d'éliminer les conflits entre eux. Et je vous dirais que même au cas de la CIRGL, s'il y avait une sorte de cohésion, une sorte de leadership au sein de la communauté, il n'y aurait pas eu de conflits, il n'y aurait pas eu de guerres. En tout cas, JR, c'est un problème qui fait énormément mal, qui remet en arrière le projet d'intégration en Afrique. La RDC est membre de plusieurs communautés économiques, et notamment de la SADC. Et de ce fait, des membres ou les ressortissants d'une même communauté économique doivent tisser des liens affectifs très profonds et avancés. Je l'ai dit, nous avons un projet d'intégration, mais ce projet s'attelle plus à des communautés économiques régionales qui, au niveau de celles-ci, on devait déjà obtenir un bon résultat dans le cadre de l'intégration régionale, puisque les objectifs assignés aux communautés économiques régionales, c'est la création d'une grande communauté économique régionale. Maintenant, avec cette communauté économique régionale africaine sera créée avec la même approche que l'Union européenne, ou ce qu'on appelle la communauté économique européenne. Ça, c'est dans le cadre du traité d'Abuja de 91, c'est-à-dire il y a déjà un plan. Alors l'idée cardinale, c'est aussi celle de rapprocher le peuple. Voilà la raison pour laquelle j'ai dit que, d'ailleurs, les auteurs proposent quatre étapes généralement pour atteindre cet idéal-là. Il y a la zone de libre-échange. faut les États mettent en place un tarif commun au sein des communautés économiques et plus l'union douanière où il y a la conformité des tarifs extérieurs. Mais tout cela, ça nous renvoie maintenant à franchir une autre étape très importante qui est le marché commun, ce qui favorise la libre circulation des personnes. Non seulement ça, mais aussi des biens, des services et des capitaux. C'est là où maintenant se trouve le problème, puisque il faut s'en tenir aussi aux revendications des Sud-Africains. C'est la question d'emploi. Ils estiment que leurs emplois, qui sont d'ailleurs rares, sont envahis par les étrangers, même ceux avec qui ils partagent la même communauté. Et c'est là, il faut le dire, c'est à cause de l'absence des conditions nécessaires pouvant favoriser les transferts des capitaux d'un État à un autre État membre. Cela fera en sorte que les nationaux trouvent aussi de l'emploi. Mais lorsqu'il y a des flux migratoires quittant un État, allant à un autre État membre de la communauté, pour aller chercher de l'emploi sans pour autant apporter des capitaux, sans pour autant proposer des services, c'est là où ça se pose des problèmes, voilà.
Merci beaucoup Kevin d'avoir appelé et vous vous êtes interrogé si l'Afrique atteindra ne fût-ce que les minimums de cohabitation des Européens au sein de l'Union africaine. Normalement, vous l'avez dit, dans une communauté économique, l'idéal est aussi de rapprocher le peuple puisque formant un seul peuple, il est difficile de se faire la guerre, mais il faut alors se poser des questions sur l'état des lieux de l'intégration régionale à l'Afrique. Alors ces derniers étant un processus, vous l'avez reconnu, il doit se réaliser dans le cadre d'un certain nombre d'étapes, comme penser à un CUDAM. Si vous observez donc ces étapes, n'ont jamais été évaluées et du coup, au niveau des communautés économiques régionales, le bilan n'est pas satisfaisant pour des raisons, vous l'avez dit, aux velléités nationalistes, à la lutte pour le leadership. Jusqu'à ce jour, la libre circulation des personnes n'est pas effective. Merci beaucoup, Kevin, d'avoir appelé de Mbandaka, 081-890-6315. Pour votre intervention en direct, vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook.
Wandugu, wakaka, wadada, wapenzi, wamama na wababa, operesheni ya kuandika wachaguzi inakaribia mwisho. Endeni haraka kuziorozesha sawa wachaguzi katika vituo vya seni vya karibu ya makao yenu, mtaani wala mkoani mnamoishi.
Namna gani mnaweza jiorozesha?
Ni kwepesi sana, inaomba kujielekeza katika kituo cha kujiandikisha cha karibu mkiwa na kitambulisho wala kibarua chochote cha kiserikali kinachoruhusiwa.
Mimi nina kitambulisho cha mpya cha mchaguzi. Mimi nitachagua. Eti nawe? Parole aux auditeurs, J.R. Lungembu.
Merci encore de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. Et je l'ai dit, en 2008, plus de 60 personnes sont décédées lors d'incidents autour de la mauvaise cohabitation entre les Sud-Africains et autres Africains vivant dans ce pays. Et à ces jours, il y a eu quasiment aucune condamnation. Nous avons notre invité en ligne, Xavier Messé. Vous êtes avec nous. Bonjour, Xavier.
Oui, bonjour.
Alors, vous êtes le DG du journal Mutation à Yaoundé, au Cameroun. Est-ce que vous pouvez dire, comme les auditeurs l'ont dit tout à l'heure, que ce qui serait à la base aujourd'hui de toutes ces violences, c'est pratiquement la difficulté d'application d'une bonne politique d'intégration continentale entre les pays membres de l'Union africaine?
Non, je ne pense pas que ce soit cela, même si c'est que cette non-application de l'intégration africaine a une bonne part de responsabilité dans les violences qui se passent non seulement en Afrique du Sud, mais quand nous avons eu à connaître un peu partout ailleurs en Afrique, il faut dire que l'Afrique n'a pas l'exclusivité de ces violences et de ces institutions. Mais il faut dire que ce qui s'est passé et continue de se passer en Afrique a ce type de particulier, c'est qu'il y a des violences physiques sur des personnes. Et c'est ça qui est totalement inadmissible. On ne peut pas dire que lorsqu'il y a intégration totale du continent africain, des zones, par exemple, comme le rassemblement en Afrique, enfin, ce qui concerne l'Afrique australe, ce qui concerne l'Afrique centrale, ce qui concerne l'Afrique de l'Est, ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest, on aura résolu tous les problèmes et on arrivera à une harmonie totale. Non, il faut aussi, c'est hypocrite de penser à cela. Mais je pense qu'en ce qui nous concerne, il y a d'abord deux problèmes de base. Le premier problème est le chômage qui sévit un peu partout en Afrique. Et quand il y a le chômage, on a tendance à croire et à dire toujours qu'il y a chômage parce que l'étranger prend la place du national. La deuxième chose, c'est elle est culturelle. Elle est culturelle parce que lorsque les ressortissants d'un autre État africain arrivent dans un pays d'accueil, il y a toujours un problème de cohabitation culturelle qui se pose énormément. On a beau être des Africains, mais les éléments culturels, les différences culturelles existent énormément. Vous voyez, un Africain qui parle du Sénégal et qui va s'installer, par exemple, dans le Kasaï oriental, ici, on a l'impression qu'il est dans un autre continent, en dehors de la couleur de peau que nous avons et que nous avons en commun. Donc, les éléments culturels, les différences culturelles sont d'une importance capitale. Et il faudrait d'abord essayer de faire en sorte que les Africains, au-delà de leur diversité culturelle, essayent de se fréquenter. Et lorsqu'ils se fréquentent, ils se connaissent. Quand ils se connaissent, ils peuvent dépasser les barrières linguistiques, les barrières économiques pour pouvoir vivre ensemble. Donc, ces deux éléments-là, l'Union africaine ne devrait pas rester au niveau tout simplement des sommets, des meetings de chefs d'État. Il faudrait que des associations culturelles, des rencontres culturelles puissent être multipliées au niveau du continent, de sorte que qu'on soit en Afrique de l'Est ou en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Nord ou en Afrique du Sud, qu'on puisse se connaître et se tolérer. Donc les différences culturelles, les différences culturelles développent énormément de différences qui font un déficit sur le milieu. Et ensuite, il faudrait qu'il y ait une information économique. L'information économique, pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand vous prenez, par exemple, l'étude des autres Africains qui a cru en Afrique du Sud, parce qu'ils pensent qu'en Afrique du Sud, ce n'est pas parce qu'ils vont entrer dans l'industrie africaine, pour prendre la place des études africaines, ils ne vont pas entrer dans la fonction publique sud-africaine pour occuper la place des sud-africains. La plupart vont là-bas parce qu'il y a des services de retombées sur la croissance économique sud-africaine. Cette croissance régénère les emplois. Et la plupart des Africains qui vont là-bas, ils y sont pour pouvoir créer leur propre entreprise et exploiter les retombées de la croissance économique pour développer leurs propres affaires. Mais ce n'est pas pour prendre la place des Sud-Africains. C'est vrai que les Sud-Africains auraient pu aussi créer des unités de production, des unités de services. Mais lorsqu'il n'y a pas une information qui circule, ça va faire passer dans l'imaginaire populaire que les étrangers qui viennent d'Afrique prennent l'emploi des Sud-Africains. J'ai essayé de regarder il y a quelques temps les statistiques qui sont diffusées par l'Institut des relations entre les races en Afrique du Sud. Et ces statistiques qui sont totalement viables et qui sont fiables disent qu'il y a 4% simplement d'étrangers en Afrique du Sud. 4%, y compris les Occidentaux, les Asiatiques et les Africains. 4%, ça ne représente pas grand-chose dans une population sud-africaine. Bon, donc, à partir de ces statistiques, et quand on pense que ces 4%, plus de 3%, enfin 3% de ces 4% développent leurs propres affaires. Il y a donc à croire que les étrangers ne prennent pas la place des Sud-Africains. Donc, qu'est-ce qui ressort à ce moment-là? Ce qui ressort, c'est le déficit de l'élément culturel qui n'est pas suffisamment amplifié.
Oui.
Les Africains ne se connaissent pas entre eux.
Oui, Xavier Bessé, dans les 3% dont vous avez parlé, qui développent leurs propres affaires, on constate que le taux est élevé se retrouve entre, ou se partage entre le Nigérien et les Congolais, les RD Congolais. Est-ce que c'est là une explication un peu particulière?
Cela ne suffit pas pour créer un sentiment de xénophobie. Mais ça veut tout simplement dire que ceux qui raflent, n'est-ce pas, des activités dans les 4%, là, ceux qui raflent des activités, sont les plus entreprenants. Le Congo, la République démocratique du Congo, est à jeter des pierres l'un des pays francophones les plus proches de l'Afrique du Sud. Le Nigeria est dans le continent le pays où l'initiative privée, le souci de l'industrialisation, la création d'emplois, le Nigeria est ce pays-là qui se dispute la place avec l'Afrique du Sud. Avec la différence que l'Afrique du Sud, compte tenu de son passé, avec le poids que l'Afrique du Sud a subi de l'apartheid, ce ne sont pas des gens qui ont développé la mobilité pour se déplacer, aller mener des activités ailleurs. Ils ont été tellement écrasés par l'apartheid qu'ils n'ont pas encore développé cette mobilité et qui est le propre des Nigériens, le propre des Sénégalais, le propre des Camerounais et dans une certaine mesure, le propre des Congolais de Kinshasa-Ki, mais qui ne vont pas dans d'autres pays d'Afrique, par exemple en Afrique du Centre, en Afrique de l'Ouest, mais ils ont le regard toujours tourné vers l'Afrique australe. Ce qui fait donc le résultat est qu'ils sont en surnombre par rapport aux autres Africains. Mais à mon avis, à mon humble avis, cela ne devrait pas suffire pour provoquer des comportements xénophobes.
Nous vous gardons encore en ligne, Monsieur Xavier Messé, mais nous retenons qu'il y a deux problèmes majeurs, deux problèmes de base, vous l'avez dit, c'est le chômage qui sévit partout en Afrique et qui occasionne parfois des flux migratoires parce que les gens sont à la recherche de Eldorado, tantôt au nord, tantôt au sud. Il y a également un autre problème que vous avez évoqué, c'est le problème culturel. Lorsque les ressortissants d'un autre État, profitent, se retrouvent en face d'un problème de cohabitation culturelle, c'est là crée parfois des crises identitaires et on cherche souvent des boucs émissaires en disant que c'est tel autre qui vient nous ravir parfois notre industrie économique, voilà, et ça ne nous permet pas, nous, de nous retrouver. Et vous avez évoqué carrément les statistiques de l'Institut statistique de relations entre les races qui fait état aujourd'hui de 4% des étrangers, y compris les occidentaux et les asiatiques qui vivent à l'Afrique du Sud, mais les 3% parmi les 4, ce sont des races qui développent leurs propres affaires, donc ça ne pouvait pas être une des raisons pour occasionner ce genre de violence. On va écouter les uns et les autres pour aussi recueillir le point de vue des auditeurs qui nous ont rejoints à ce niveau du débat. Ingénieur Valérie Kétakindou et Alain Bolojo à Kinshasa. Ingénieur Valérie, bonjour.
Bonjour, JR. Bonjour à notre invité, le Camerounais, monsieur Bisset, ainsi qu'à tous mes prédécesseurs et tous les autres auditeurs de la radio Capi.
Alors, le chômage et puis cette crise identitaire, est-ce que vous partagez cet avis qui serait quand même à la base aujourd'hui des différentes violences que nous enregistrons, comme l'a dit notre invité, pas seulement en Afrique du Sud, mais à travers le continent?
Oui, vous savez, quand est-ce que des peuples qui vivent ensemble commencent à chercher à affirmer l'identité? C'est lorsqu'il y a quelque chose qui les divise, naturellement ou non. Alors, je vous donne un exemple. Depuis le mariage, puisque la société commence à partir du mariage, le mariage, la famille, l'école, les églises, ainsi de suite. Quand est-ce qu'on peut dire qu'une société est stable? C'est lorsque les gens savent vivre l'unité dans la diversité. C'est ainsi que lorsqu'un élément qui peut rompre l'unité arrive, que les gens ont tendance maintenant à affirmer leur identité et ça devient maintenant l'objet d'un conflit. Je prends un exemple assez simple comme dans le mariage. On a toujours dit 1 plus 1 égale 1. Quand tout va bien, ils parlent en termes de nous. Mais quand ça ne va pas, ça devient comment? Vous comprenez? Là maintenant, quelqu'un s'identifie à lui-même et non plus par rapport au groupe. Oh. Lorsqu'il faudrait analyser cette affaire, je commence par un argument qui vient d'être dit en d'autres termes par notre ami qui a dit que c'est parce que les États ne collaborent pas. Ok. Le premier élément chez moi, j'en ai 5, je ne sais pas ce que le temps me permettra. Le premier, moi je dis, il y a mauvaise gestion des renseignements par les gouvernements sud-africains. C'est-à-dire quoi? À partir des flux migratoires, on doit déjà classer les immigrés. On doit se dire, de telle année à telle année, on a reçu les immigrés qui viennent plus de tel pays que de l'autre. Et dans cette catégorie, il y a plus, soit les cadres universitaires ou les tout-travaux, ainsi de suite. Lorsqu'on les classifie, on sait déjà comprendre quelle sera l'incidence ou quelles seront les incidences de ces genres de catégories professionnelles par rapport à nos concitoyens ici. Ce qui fait qu'un tel conflit ne peut pas exploser du coup. Lorsqu'on se réfère au cours de polémologie, qui est un cours qu'on apprend par les historiens, les politologues, Vous comprendrez que même pour arriver à une guerre, il y a des étapes. Le tout commence par une tension. Je donne un exemple terre à terre. C'est comme quelqu'un qui insulte un autre aujourd'hui, demain, il y a la tension. Par après, la tension va générer un peu, en une sorte de conflit, on commence à les manifester. S'il n'est pas géré, on arrivera à des stratégies. Stratégie, tactique, tactique, et puis finalement on est au niveau de la guerre. Donc ce conflit n'est pas arrivé comme par hasard. Les services de renseignement sud-africains, ainsi que le gouvernement, devraient déjà exploiter.
Gérer
ça. Ils ont failli, parce qu'il était prévisible.
Deuxième.
Oui.
Oui, deuxièmement, oui.
Ok, deuxièmement, il y a supplantation de la politique sur le droit. Parce que avant que ces immigrés ne viennent, le gouvernement sud-africain leur a donné leur visa, son visa. Ce qui fait que, à ce moment-là, ils doivent être protégés par le gouvernement sud-africain. Mais si vous suivez la réaction du gouvernement sud-africain dernièrement, c'était une façon de les rejeter en disant que non, c'est, ils ont imputé ça, je ne sais pas moi, au commerce ou quoi là. En réalité, Jacob Zuma n'a pas été sympathique même avec les étrangers. Tout ça, c'est quoi? On ne veut pas avoir des droits parce qu'on doit les exécuter, mais parce que les autres en ont, nous aussi, nous devons en avoir. Alors, troisième élément, il y a disparité entre les objectifs des organisations africaines et leurs institutions par rapport au déroulement, aux méthodologies même du travail. C'est-à-dire quoi? En principe, ce n'est pas la République nigériane qui devrait réagir vis-à-vis de la République sud-africaine. Bien sûr, ils ont fait leur travail, c'est bon, mais où est la place de l'organisation de l'Union africaine? Il fallait que l'Union africaine réagisse à temps, tant plus que tous ce sont les pays membres de l'Union africaine. Mais vous remarquerez que les gens commencent à se défendre eux-mêmes comme s'ils n'ont pas d'autres qui les protègent. Là, il y a faiblesse, c'est pourquoi vous avez toujours remarqué que, personnellement, je n'ai jamais eu confiance aux organisations africaines, que ce soit régionales ou sous-régionales, parce que les Africains, ils aiment plus paraître qu'être. Alors, mais le quatrième élément, il y a aussi l'improvisation des cadres, ce qui amène aussi un certain apprentissage au sommet. Ce point se rallie au premier point relatif à la mauvaise gestion des renseignements. Vous savez, dans ces pays-là, tellement que les gens ont vécu pendant beaucoup d'années dans l'apartheid et tout, lorsque les Italiens sont partis, il y a eu une vague là de remplacement par les Noirs, et dans cette vague, il y a eu et les compétents et les moins compétents. De deux, lorsque Mandela a eu le pouvoir, les Sud-Africains ont cru se reposer en se disant on a fait notre travail, maintenant c'est le travail de Nelson Mandela. Alors qu'ils devraient eux aussi continuer à travailler. Oui. C'est ainsi qu'après Mandela, comme d'après une loi de l'histoire, après un grand chef, il y a toujours un chef de transition. Voilà qui dit que Mandela est parti. Il y a même des dissensions au sein de
l'ANC.
Donc c'est ça le problème.
Merci.
Je termine par là. Merci pour m'avoir.
Merci beaucoup.
La tolérance à mon égard.
Non, je vous en prie. Valérie, merci beaucoup. Merci. Oui, merci d'avoir donné ces éléments. Là, carrément, il y a deux points sur lesquels, en fait, nous allons peut-être soumettre ça au débat avec les autres qui vont vous succéder. Mais je retiens quand même que quand vous parlez de mauvaise gestion des renseignements, là, vous rejoignez directement le point de vue de notre invité qui parlait de l'information économique à partager entre les États. Ça pourrait quand même aider les uns et les autres à pouvoir réfléchir pour éviter ce genre d'incidents. Mais vous avez, en évoquant donc la mauvaise gestion des renseignements, vous avez ajouté également la supplantation de la politique sur les droits et la disparité entre les objectifs des organismes régionaux ou encore sous-régionaux. Merci beaucoup, Valérie, d'avoir appelé. Alain Bolodjo, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bienvenue.
Bonjour Radio Okapi, bonjour à votre invité, bonjour à tout le monde.
C'est vrai, notre invité a dit, bon, ce n'est pas totalement que la politique régionale ou sous-régionale qui serait à la base de ce genre de violences que nous enregistrons, notamment en Afrique du Sud, où il y a mauvaise cohabitation entre les Sud-Africains et les autres Africains. Bon, il y a d'autres raisons aussi évoquées par Valérie, Kevin et tant d'autres. Mais quelle est votre contribution, Alain Bolodjo, à ce niveau du débat?
Bon, ce qui est vrai, nous devons reconnaître que c'est un débat séculier qui n'a pas commencé aujourd'hui. Déjà, si vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu des problèmes en Égypte avec les Israélites qui étaient reçus au départ, et par la suite, on s'est rendu compte que les Égyptiens n'ont pas supporté la présence des Israélites, et c'est ce qui a conditionné après la mort de Joseph, l'esclavagisme qui a eu. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a un problème en termes de gestion des ambitions individuelles dans des États. Commençons d'abord au niveau de l'Afrique du Sud. Lorsque la jeunesse sud-africaine constate qu'il y a un problème en termes d'emploi, où on dit que le taux de chômage ne cesse de croître, en même temps on voit les étrangers qui viennent sans papier, naturellement ça doit créer des frustrations. Il y a aussi le pays qui, d'origine de ces gens qui viennent, qui arrivent au niveau de l'Afrique du Sud, qui sortent de leur pays tout simplement parce qu'il y a un problème et qui veulent aller trouver le bonheur dans ces États, sans pour autant remplir certaines conditions, ça fait en sorte que dans les États et dans les États d'accueil, il y a un problème. Donc moi, j'estime, de mon point de vue, le plus grand problème aujourd'hui, c'est le problème des disparités en termes de développement. Parce que les gens qui vont en Afrique du Sud, ils vont tout simplement pour aller chercher le mieux-être. Si dans leur pays, il y avait quand même des conditions qui étaient réunies, on n'allait pas avoir des réfugiés économiques, mais plutôt des gens qui vont en tourisme. Parce que les gens qui vont en tourisme viennent avec l'argent, ils dépensent et après ils repartent. Mais lorsqu'il y a des flux migratoires qui vont dans le sens d'aller habiter, sans pour autant apporter un plus dans le pays, et naturellement, ça crée des situations.
Oui, alors, allez, quand vous parlez de ce déséquilibre de développement entre les nord, le sud et les centres, aujourd'hui, ben, on remarque que par rapport au taux qui nous a été communiqué d'ailleurs par notre invité tout à l'heure, 4% des étrangers en Afrique du Sud, et vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, un grand nombre de étrangers, et c'est entre le Niger, c'est le partage entre les Nigeria et la RDC. Alors, on sait tout de même que les taux avancés aujourd'hui des flux migratoires, des Congolais qui quittent la RDC pour aller à l'Afrique du Sud, ces 10 dernières années ont accru. C'est quand même en hausse, en variation à la hausse. Ben alors, comment expliquer au moment où la RDC a traversé quand même cette période que nous avons appelée de stabilité des cadres macroéconomiques, il y a eu ces mouvements. Le Nigeria qui est coté aussi aujourd'hui parmi des pays qui tend vers l'émergence, mais il y a ces mouvements. Comment vous expliquez ça, Alain Bolodja?
Bon, en fait, lorsqu'on se fie aux statistiques, on part par de moyennes où on prend la production nationale, on divise par le nombre d'habitants. Il y a des disparités au sein de nos pays. Il y a un problème de répartition des richesses. La redistribution n'est pas faite de manière équitable. Donc, c'est une manière de voiler la réalité. C'est vrai que l'Afrique n'a pas encore trouvé son envol, ou on n'a pas encore senti l'Afrique connaître le boom économique qui permettrait à ce que l'on affranchisse un grand nombre de ressortissants africains de leur pauvreté. C'est le cas avec notre pays. Les gens qui vont en Afrique du Sud, c'est pour chercher le mieux-être. Bien qu'ils n'en trouvent pas toujours, mais ce qui est vrai, c'est qu'ils vont parce qu'il y a des problèmes au sein de nos pays. C'est ce qui justifie leur départ. Mais malheureusement, c'est que moi je suis ici dans cette situation, c'est de voir l'attitude qu'adopte l'État sud-africain. L'État sud-africain a l'obligation, en tant que membre de la communauté internationale, de sécuriser les ressortissants des autres États. Parce que ici, dans nos pays, il y a aussi des Sud-Africains qui vivent, qui travaillent et qui n'ont pas toujours réussi à apporter un plus dans nos économies. Nous les acceptons parce que nous sommes tous membres. Nous devons vivre dans une communauté, en fait. Parce que nous sommes tous membres de l'Union africaine, donc nous sommes appelés à avoir une certaine solidarité. Et l'État doit sécuriser. On ne doit pas seulement sécuriser ses ressortissants, on doit aussi sécuriser les ressortissants des autres États. Et si on doit continuer ainsi, et bien moi je signe de mon point de vue, ce qu'il y a à faire, de mon point de vue, c'est d'abord commencer à relancer les économies des autres États. Parce que la meilleure manière de se sécuriser, c'est sécuriser l'autre. Dès lors que les autres États seront dans une situation de désarticulation de leur futur économique, et bien il y aura toujours des flux vers le sud. Lorsqu'ils vont vers le sud, l'augmentation de la population a une incidence sur le mieux-être des autres.
Voilà, merci.
Dès lors que la productivité ne suit pas, et bien naturellement, il y aura une pauvreté qui va se créer, et les espèces qui doivent être occupées par les Sud-Africains seront occupées par d'autres. Est-ce qu'il n'y a pas moyen à ce stade d'encourager, de faire en sorte que les autres pays puissent arriver aussi à créer des richesses à leur niveau, pour réduire le flux migratoire.
Merci beaucoup, Alain Bolodjoa. Pour vous, il s'agit là de la gestion des ambitions simplement, qui serait liée à la disparité en termes de développement que nous constatons en Afrique. Et l'Afrique n'a pas encore retrouvé donc ou trouvé son envol. Mais pour vous, vous estimez qu'il va falloir commencer d'abord à relever l'économie de chaque État membre de l'Union africaine. Mais la grande question, Constance Nazouma a été présidente donc de cette commission à tête de l'Union africaine. Mais comment se fait-il que jusqu'à ce niveau, c'est dans son pays que cette politique d'intégration continentale pose problème? Maître Omar, vous êtes à Kinshasa, vous nous avez rejoint. Bonjour et bienvenue.
Bonjour J.R. Longuemboué, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Quelle est votre contribution à ce niveau du débat, après avoir écouté les uns et les autres?
Merci J.R. et je vous remercie d'avoir été sensible et solidaire par rapport à ce qui se passe à nos confrères et à nos compatriotes de la RDC vivant en Afrique du Sud. J'ai fait bien toutes les belles interventions de mes prédécesseurs, mais je pense J.R. nous parlons de l'Union africaine. Et cette union a été créée pour deux objectifs majeurs. Le premier, c'est d'établir la paix et la sécurité en Afrique. Le second, c'est le respect des droits de l'homme. Aujourd'hui, sur le plan juridique, on peut qualifier ce qui se passe là-bas de la xénophobie, des actions rébarbatives, violatrices, graves des droits de l'homme. Et je pense, hier, s'il faut aujourd'hui examiner les blancs de l'Union africaine, on peut dire qu'il est négatif. Pourquoi? Il y a deux raisons. Sur le plan politique, les dirigeants africains sont incapables d'appliquer les accords que MMO a pris. La vraie intégration passe par le respect des accords pris. Je peux vous citer un des autres. Nous avons au monde la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été votée en 1948, que tous les pays africains ont ratifié. Nous avons également le Pacte international des droits de l'homme et civil qui a été ratifié en 1966. En Afrique, on a tant d'autres accords internationaux. Et ces accords obligent aux États signataires de respecter les droits de l'homme. Mmh. Lorsque un ressortissant d'un autre pays vient dans un autre pays, il peut le venir pour plusieurs raisons. Pour raisons d'études, pour des raisons d'asile politique, pour des raisons de tourisme. Et l'État qui l'accueille a l'obligation, selon la Convention des 51, de le respecter. Sauf s'il est dans des conditions irrégulières. Même s'il est ressorti dans des conditions irrégulières, il faudra, n'est-ce pas, le renvoyer tel que le prévoient les relations diplomatiques. Et je voudrais rappeler à tout le monde que il existe des accords internationaux qui réussissent, mais les États africains sont brillés par le manque des accords politiques qu'ils ont eux-mêmes signés. Deuxième chose, on parle de l'Union africaine alors que l'Afrique elle-même n'est pas unie. Si vous lisez Kwame Nkrumah avec son livre « L'Afrique doit être unie », si vous lisez pas d'autres auteurs, Cheikh Anta Diop, vous allez vous rendre compte que ce qui nous bloque en Afrique, c'est deux choses. Le manque de respect des accords pris pour préserver nos droits et le manque d'unité. Mmh. Voilà pourquoi sur le plan économique, je pourrais aussi dire hier, il faut analyser les points par rapport à ces causes profondes. Il y a un problème de chômage dans d'autres pays. Aujourd'hui, il est démontré qu'il y a le Nigeria, le Maroc, l'Afrique du Sud, ce sont des pays qui émergent. Et tout le monde pense, vu la précarité des pays dans lesquels ils vivent, il faut aller se retrouver ailleurs. Il y a un plan sociologique. Pourquoi le Sud-Africain commence à faire souffrir les autres ressortissants des autres pays? Il y a un problème sérieux. Ils ont peur d'être envahis par les autres. Donald Trump a failli le faire. Il a pris un décret, n'eût été l'annulation par son tribunal fédéral. Ces décrets pourraient être appliqués. Il faut d'abord savoir qu'on peut d'abord émerger dans son propre pays avant d'aller ailleurs. Donc, en analysant cela, je pense que mes solutions sont simples. Premièrement, sur le plan politique, les leaders africains, les chefs d'État africains doivent être munis de la volonté politique d'appliquer les accords qu'eux-mêmes ont ratifiés sans libre. Il y a la Charte africaine des droits de l'homme et autres. La loi même prévoit qu'il y ait une Cour africaine des droits de l'homme. De telle façon que lorsque les droits de l'homme sont violés dans n'importe quel pays d'Afrique, que cette Cour puisse l'appliquer. Jusqu'à ce jour, hier, la Cour n'existait pas. Deuxième chose, il y a une convention de 61 qui régit les relations diplomatiques entre États du monde. Et chaque État est tenu de la réciprocité. Lorsque vous constatez que les droits de l'homme ne sont pas respectés, vous devez faire appliquer la loi, mais ça n'est pas respecté. Il y a aussi un problème d'unité. Voilà pourquoi il y a des gens comme Kwame Nkrumah, Muammar Kadhafi, Personnam, qui ont lutté pour l'unité africaine, mais ça n'a pas tenu. Sur le plan économique, là je parle des États membres de l'Union africaine. On est mieux que ce soit. Premièrement, la solution de l'intégration sociologique et économique de l'Afrique passe d'abord par l'organisation interne. Il faut qu'au niveau interne de chaque État, qu'on puisse avoir le minimum vital, qu'on puisse également voir le minimum social. Mais puisqu'on ne peut pas vivre en autarcie seul, il faut qu'il y ait des relations diplomatiques. Il faut se faire respecter. Aujourd'hui, je l'ai dit en tant que Congolais, l'Afrique ne pèse plus au continent, au monde, pardon, et la RDC ne pèse plus au niveau du continent. Il faudra avoir aussi des solutions diplomatiques. C'est pas la première fois. à cause de notre immobilisme et de notre torpeur, un petit pays a failli nous refouler et on nous a appelé Mbata Bakolo. Aujourd'hui, il faut que la RDC s'élève en tant qu'État. À part le plan juridique qui veut qu'on respecte les textes, sur le plan politique et diplomatique, un État doit avoir la capacité de riposter. On nous a fait se souffrir. Pourquoi ne pas fermer une telle ambassade pour y voir une réponse politique? Vous avez vu vous-même, lorsqu'on a voulu voter et le veto sur la Syrie, Vladimir Poutine a refusé. Et qu'est-ce que les États-Unis ont fait par rapport à Poutine? Ils n'ont rien fait. À part l'aspect juridique, l'aspect politique, il faut avoir l'aspect diplomatique. Diplomatique veut dire double jeu. Lorsqu'on ne sait pas respecter vos droits, il ne faut pas aussi respecter les droits des autres. C'est en se faisant de cette manière-là, je pense que, en respectant les accords que nous-mêmes avons
donnés. Voilà, merci beaucoup, Omar. Voilà, Omar, on retient quand même par rapport, vous avez beaucoup parlé, tellement que votre intervention était très pertinente. On vous a laissé quand même, on va résumer pour ceux qui vous ont suivi. Il y a, pour vous, des objectifs pour l'Union africaine. D'abord, établir la paix et la sécurité en Afrique et le respect des droits de l'homme. Mais vous estimez que ces deux objectifs n'ont pas été atteints dans la mesure où, disons, les leaders, les dirigeants politiques n'ont pas pu respecter des accords qu'ils ont pris eux-mêmes. C'est ça le mal. Et pour vous, vous estimez que sur le plan politique, il va falloir revoir les dispositions de la Charte africaine des droits de l'homme et aussi passer à son application. Ça pourrait résoudre les problèmes. 081-890-4969 pour votre intervention en direct. Et également les 081-890-43-6381. Et vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook.
Congolaises et Congolais, l'enrôlement des électeurs tire à sa fin. Allez-y vite vous faire enrôler dans le centre d'inscription de la CENI, le plus proche de votre maison, dans votre commune ou dans votre groupement.
Qui est concerné par l'opération de la révision du fichier électoral?
Se faire enrôler pour les élections concerne toutes Congolaises et Congolais vivant au pays ou à l'étranger en âge légal de voter. Il s'agit de vous si vous avez plus de 18 ans. Vous avez 16 ans, vous aurez 18 ans en 2018, alors allez-y aussi vous faire enrôler.
J'ai ma nouvelle carte d'électeur, je voterai. Et toi?
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Voilà, nous poursuivons avec vous, Xavier Messé, vous êtes en ligne. Bonjour et bonjour encore, Monsieur Xavier.
Oui, voilà. Bonjour et je salue de nouveau les auditeurs de Radio Kamerun.
Voilà, alors je rappelle que vous êtes DG du journal Mutation à Yaoundé, au Cameroun. Vous venez de suivre les uns et les autres. Valérie, tout à l'heure, a développé cinq raisons qui font qu'aujourd'hui les Sud-Africains puissent quand même manifester une telle attitude. Il y a cette mauvaise gestion des renseignements que moi j'ai rallié d'ailleurs à votre intervention de tout à l'heure lorsque vous parlez de l'information économique qui doit être partagée entre les États. Il y a cette histoire de supplantation de la politique sur les droits et également la disparité entre les objectifs des organismes régionaux ou sous-régionaux. Et il a évoqué également l'improvisation des cadres en Afrique du Sud et bien entendu avec cette histoire de chômage ou encore des difficultés de vivre. Il a été enchéri par Alain Bolodjoa qui a évoqué également la gestion des ambitions, la disparité en termes de développement en Afrique. L'Afrique qui n'a pas encore trouvé son envol. Il faut commencer à relancer l'économie de l'Afrique pour que nous arrivions au résultat et arrêter quand même les ardeurs ou encore ces mouvements de flux migratoires. Et notre dernier auditeur, Omar, a beaucoup plus insisté sur le renforcement de l'application des accords signés par les États, soit dans les différents organismes régionaux ou sous-régionaux. Quelle est votre réaction?
La réaction est que l'Afrique, si nous parlons de manière prosaïque, l'Afrique a un peu moins de 30 ans. C'est-à-dire, on va parler de statut de conscience politique au niveau des États indépendants. Donc, il y a lieu de penser que si nous pouvons considérer l'Occident comme ce continent-là qui a fait ce service sans repère dans ce conflit, il n'y a pas eu d'autre sentiment d'aller sur un mauvais chemin, il se comprenait, et il a donc fini par
voilà, Xavier, on a des petits soucis avec votre ligne. Là, on vous capte difficilement. On commence un tout petit peu à vous perdre. Est-ce que c'est lié peut-être à la position là où vous êtes, sur la route ou peut-être dans une maison? Si tel est le cas, alors
non,
est-ce
je suis je suis dans mon bureau, donc normalement, je crois que c'est un
peu... Voilà, les bétons et... Voilà, les temps peut-être
que vous... Est-ce que vous me suivez bien maintenant?
Voilà, toujours avec des micro-coupures, c'est difficile de vous suivre correctement.
Est-ce que vous me suivez mieux en ce moment?
Je crois que là, ça va. Là, ça va plus ou moins. Donc, on peut voilà. Peut-être essayer.
On peut recommencer.
Oui, allez-y.
Oui, ça c'est les aléas du direct, mais j'étais en train de dire que je ne suis pas de ceux qui désespèrent que la piste est entièrement mal partie, parce qu'en fait, si nous prenons l'histoire politique de l'Afrique, après les indépendances, nous avons l'Afrique à moins de 70 ans de vie politique, économique et sociale libre. Donc, nous avons, on peut penser que si nous prenons, par exemple, le modèle occidental, le modèle européen notamment, ce sont des gens qui ont tracé leur vie politique, économique, sans repère. Ils ont commencé à chercher des voies et des moyens. Lorsqu'ils se sont trompés, ils ont recommencé jusqu'à ce qu'aujourd'hui, ils ont balisé le chemin de la démocratie, de l'émancipation sociale et politique et économique. Donc, nous, l'Afrique devrait se servir de cela pour ne pas avoir à chercher des repères. Mais peu importe, ce qui nous pose problème aujourd'hui, c'est les leaders africains. Nous avons tué quelques leaders africains qui rêvent, n'est-ce pas, de regarder ce que le continent occidental, ce que le continent européen a fait pour essayer de tirer l'Afrique vers le haut. Ce sont des gens, des dirigeants africains qui pensent local, qui sont nombrilistes. Ils n'ont pas d'ambition, on n'a pas eu beaucoup de leaders africains. De la trame de Mandela, de la trame de Kadhafi, de la trame de Kwame Nkrumah. Il n'y a pas eu. Aujourd'hui, les chefs d'État africains que nous avons, c'est des gens qui pensent d'abord eux-mêmes. Et ils n'ont pas une vision de prospective pour dire que voici l'objectif qu'on se donne pour tirer l'Afrique vers le haut. Alors, ce qui fait que lorsque un chef d'État africain arrive au pouvoir, il a envie d'abord de bâtir, d'asseoir son pouvoir et d'y rester le plus longtemps possible. La manière de prospecter, d'avoir un regard prospectif et prometteur, ça ne fait pas partie de leur culture actuelle. Raison pour laquelle nous avons le sentiment que lorsque vous êtes, par exemple, à Brazzaville, lorsque vous êtes au Congo-Kinshasa, vous avez le sentiment de traverser et d'arriver dans un autre monde. Et cette manière, cette culture que les dirigeants doivent inculquer à part l'éducation, par l'information, par la culture, elle fait encore un déficit énorme. Raison pour laquelle un Africain doit se déplacer pour aller dans un autre pays, c'est comme s'il traversait tout un continent. Et cette manière de faire ne fait que renforcer les divisions. Et quand ces divisions sont ainsi renforcées, ça aboutit, n'est-ce pas, à des violences telles que celles que nous avons. Nous vivons actuellement en Afrique du Sud, où les Africains sont étrangers dans leur propre continent. Vous voyez, ce n'est plus un comportement qu'on vit en Europe, par exemple. On ne vit plus ça en Europe. Mais nous n'avons pas perdu espoir. Nous pensons que ce mouvement, cette violence que nous vivons, devrait nous servir de leçon. Et que les générations futures doivent se servir de ça. Si elles sont un peu plus ambitieuses, je parle des générations futures en termes de dirigeants. Parce que vous et moi, quand vous vous déplacez pour venir à Yaoundé, où je suis actuellement, vous êtes accueillis par la population. Mais il faut que cette culture-là passe, n'est-ce pas, des populations locales, des populations autochtones, aux dirigeants. Ils doivent développer. Il faut que les chefs d'État se fréquentent. En se fréquentant, qu'ils créent des relations, qu'ils développent des relations, qu'ils passent des chefs d'État aux populations. À ce moment-là, je pense que nous aurons commencé à franchir progressivement les barrières qui nous séparent. On pense qu'un Africain qui va dans un autre pays vient prendre le pain
de l'Afrique. Voilà. Alors, Xavier, est-ce que vous avez partagé l'avis d'un auditeur tout à l'heure, en l'occurrence Alain Bolodjoa, qui insistait beaucoup plus sur les travaux que doit faire l'Union africaine pour, au fait, réduire sensiblement cette disparité en termes de développement des États?
Mais je crois que j'ai abordé ce problème-là, mais pas de la même manière que cette édition que j'ai suivie avec beaucoup d'intérêt. Parce que l'Union africaine, aujourd'hui, l'Union africaine nous a montré ses limites. ses limites en termes de réflexion, ses limites en termes d'action, ses limites en termes de pouvoir. C'est pas une Union africaine qui a un pouvoir, qui peut mener des actions comme par exemple on voit l'Union européenne poser des actes, mener des actions et avoir un pouvoir coercitif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Union africaine, ça reste encore un grand syndicat de chefs d'État qui se réunissent à l'occasion des grands maîtres et puis ils pensent qu'ils peuvent émettre des vœux pieux. Ils n'ont pas un pouvoir coercitif. Lorsque vous prenez par exemple l'Union européenne, lorsque les dirigeants sont réunis à Bruxelles, ils prennent des décisions et les chefs d'État à l'intérieur de notre pays, ils sont obligés d'appliquer. L'Union africaine émet des vœux, continue de mettre des vœux. On a l'impression que quand on pousse un peu plus loin, on rentre de ce qu'on appelle le sacro-saint principe, la non-ingérence dans les affaires des États. Il faudrait que l'Union africaine ait le courage de se donner les moyens, n'est-ce pas, d'imposer un certain nombre de lignes de conduite à l'intérêt des États. Et là, lorsqu'il y a récalcitrance, lorsqu'il y a la non-application, que l'Union africaine ait les moyens
qui va endosser
des sanctions. C'est ça qu'on peut attendre de l'Union africaine. Maintenant, au-delà de ce pouvoir coercitif qu'on attend de l'Union africaine, lorsqu'on n'en a pas, il faudrait que l'Union africaine multiplie des actions sociales, des actions culturelles. J'insiste sur les actions culturelles. Mmh. On n'a pas vu l'Union africaine, par exemple, créer des mouvements tels que les Africains de l'Est puissent aller en Afrique de l'Ouest et puissent s'implanter sous sa supervision et puis étudier là-bas et puis pourquoi pas s'implanter sous ça. Donc, c'est un déficit d'action, c'est un déficit de pouvoir qui fait que l'Union africaine reste encore ce grand machin que nous regardons et
seul. Voilà, merci beaucoup. Il y a beaucoup à faire au niveau de l'Union africaine. Xavier Messé, nous rappelons que vous êtes le DG du journal Mutation à Yaoundé au Cameroun. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et à très bientôt.
Merci beaucoup. Merci. Prochainement. Bonne journée.
Bonne journée à toi, à vous aussi. Alors, bienvenue, vous êtes à Kinshasa et Pichou a également dans la ville province de Kinshasa. Et bien, on va vous accorder à chacun une minute pour conclure. Bienvenue, vous êtes avec nous.
Je regrette que l'État soit un parti.
Oui, rapidement, vous avez la parole.
Ok, moi, je vous réponds en tant que victime de la crise xénophobique de 2008, mai 2008 et jusqu'au mois de décembre. Et j'étais moi-même victime et à la fin j'ai été élu président de tous les réfugiés qui étaient victimes. Bon, j'ai suivi tous les auditeurs qui m'ont précédé, mais je voulais vous donner une précision pour avoir vécu 8 ans en Afrique du Sud.
Allez-y.
L'Afrique du Sud, c'est un pays qui a l'une des plus belles constitutions du monde, qui donne à tous les citoyens étrangers les mêmes droits qui les autochtones, excepté un seul droit, les droits de vote. Puis j'ai suivi les gens qui parlaient des cadres politiques et diplomatiques et consorts. Mais il y a un problème en Afrique du Sud. Nos frères, l'Afrique du Sud, c'est un pays noir, un pays d'Afrique noire. Quand bien même ils ont 4 races, dont les Indiens, les Bourgs, les Noirs et les Métis. Mais je voudrais ici donner, il y a 2 raisons. Il nous disait chaque jour, you are here because of Mandela. Donc vous êtes ici à cause de Mandela qui est votre beau-frère. Parce qu'il a épousé la femme Machel. Mais retenez une chose, ils ont 2 raisons majeures. Il dit, vous êtes venu dans notre pays, vous avez volé nos emplois et nos sœurs. Nos femmes ne veulent plus de nous, ils veulent que de vous étrangers. Alors nous avons un sérieux problème d'intégration. Monsieur Antonio Guterres, l'actuel secrétaire général à l'époque, était le numéro 1 du HCR au commissariat des Nations Unies aux réfugiés. Il est venu à Cape Town, là où j'étais président. On a discuté. Alors, le HCR, en sautant, avait demandé que l'Afrique du Sud érige des camps de réfugiés comme le cas de Kenya et dans d'autres pays européens. Mais le gouvernement avait donné des assurances. Moi, je pense que la crise actuelle tombe à pic, à ce sens que l'actuel secrétaire général
est mieux placé pour être un peu regardant sur cette question. Voilà. Merci beaucoup, voilà. Bienvenue. En tout cas, on aurait bien souhaité vous avoir en début de cette émission. Malheureusement, vous avez appelé un peu plus tard. Merci à la réalisation qui nous a permis d'avoir quand même votre témoignage. Merci à toute l'équipe qui a concouru à la production de cette émission. Nico Kalambay et Alain Ngoy, ainsi que Martin Sebujangé. Cette émission vous a été coordonnée, présentée par J.R. Lou Ngembo Luabung Anji. Nous prenons rendez-vous avec vous demain dans un autre numéro de Parole aux auditeurs. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix.
L'émission Parole aux auditeurs que vous venez de suivre était une rediffusion.